France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
7h38 sur France Culture, la réforme des institutions autour d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État était hier devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles. Aujourd'hui, ce sont les députés qui commencent à discuter à l'Assemblée de la réforme institutionnelle. Nous, on en parle avec la députée La République En Marche, Yaël Braun-Pivet, co-rapporteur du projet de loi constitutionnelle en charge du volet institutionnel de cette réforme. Bonjour à vous, Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
Un petit discours de politique générale, nous dit l'opposition au lendemain de ce congrès, convaincant pour vous, Emmanuel Macron?
Alors, Emmanuel Macron a tenu ses engagements. Il avait indiqué qu'il reviendrait devant le Parlement réuni en congrès tous les ans pour, d'une part, dresser le bilan des actions entreprises et pour fixer un cap, rappeler le sens de nos actions. Et je pense que cela a été bien rempli. Il nous a indiquer une belle feuille de route pour l'année prochaine, l'État-providence du 21e siècle à construire, à redéfinir, et je pense que c'est assez exaltant.
Beaucoup de conseillers en burn-out, disent-ils à Matignon. Vous, à l'Assemblée, ça va? Pas trop le rythme des réformes est pas trop accéléré? Vous tenez?
Le rythme des réformes est le bon rythme parce que nous savons qu'il y a beaucoup à faire et nous le faisons. Donc non, nous sommes bien évidemment fatigué dans le sens où la tâche est immense, mais nous ne nous plaignons pas, bien au contraire, puisque là nous allons travailler tout le mois de juillet, le début du mois d'août, et donc nous sommes à la tâche, et c'est bien normal, nous avons été élus pour cela.
Alors Emmanuel Macron est venu hier défendre ses chantiers d'une ampleur inédite, dit-il, après une première année frénétique. Il semble avoir un tout petit peu levé le pied pour l'été. Un certain nombre de projets, de réformes sont suspendus jusqu'à la rentrée, notamment ce plan pauvreté qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, la réforme de l'hôpital dont on vous parlait cette semaine dans les matins de France Culture, avec un personnel au taquet, aux aguets, fatigué, qui attend que l'hôpital public soit réformé. Il a donc levé le pied, mais son pied social, est-ce que l'année à suivre, à partir de septembre, peut laisser espérer une action plus tourné vers ceux qui en ont réellement besoin, Yaël Braun-Pivet?
Alors, comme l'a dit le président hier, le plan pauvreté n'a pas été suspendu. Il est juste, il nécessite juste des derniers ajustements et il sera présenté à la rentrée. Il ne s'agit absolument pas, encore une fois, de lever le pied. Le président l'a également rappelé, l'action que le gouvernement a entreprise est une action qui est destinée à tous puisque le projet est un projet de relance de l'économie, de recréation d'emplois, et cela bénéficie nécessairement à tous. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que ce projet n'est pas destiné aux personnes les plus démunies d'entre nous. Bien au contraire, lorsque l'on met l'accent sur l'éducation, sur la formation, sur l'emploi, on propose aux plus défavorisés d'entre nous un avenir. Et c'est cela dont ils ont besoin et c'est cela qui nous préoccupe aujourd'hui.
Votre sensibilité de gauche à vous est respectée, est entendue?
Mais encore une fois, moi, vous savez, je viens des Restos du Cœur. Donc au Resto du Cœur, on voyait des personnes qui étaient dans la précarité depuis des années et qui n'avaient comme ligne d'horizon que les Restos du Cœur, que les aides sociales, que la banlieue dans laquelle ils vivaient, et aucun projet d'avenir, aucun projet d'insertion, aucun projet de changement. Et je pense que lorsque l'on met l'accent sur cela, lorsque l'on propose un avenir aux gens, c'est comme ça que l'on réussira à les faire sortir de la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent, et donc c'est comme cela qu'il faut faire.
Ça a l'air d'être un peu une marotte présidentielle, réviser la Constitution pour y imprimer sa marque, après Jacques Chirac à plusieurs reprises, après Nicolas Sarkozy. Vous n'étiez pas encore né politiquement, mais vous vous souvenez comme nous des polémiques quand le président François Hollande envisageait d'inscrire l'état d'urgence et la déchéance de nationalité dans la Constitution. On ne touche pas impunément à notre Constitution. Pourquoi vouloir la réformer aujourd'hui?
Alors la Constitution a été réformée, je vous le rappelle, durant la 5e République, à 24 reprises.
C'est énorme,
c'est beaucoup. Il y a eu des petits ajustements parfois et des grandes réformes de la Constitution qui, objectivement, se comptent sur les doigts d'une main. Aujourd'hui,
Alors là, on vise grand ou c'est des petits ajustements qui se préparent ?
Là, on vise grand parce qu'il s'agit de faire entrer la Constitution dans les enjeux du 21e siècle. Donc nous supprimons le mot race, nous inscrivons encore plus haut, encore plus fort l'égalité entre les sexes, nous inscrivons les grands enjeux de l'environnement, nous voulons transformer le Conseil économique et social pour en faire un espace de vie démocratique et de participation citoyenne. Donc nous allons adapter la Constitution aux grands enjeux d'aujourd'hui. Nous allons également réformer profondément la procédure législative pour permettre aux parlementaires d'exercer toutes leurs missions et de les exercer mieux. Donc ce sont des missions de législation, mais également des missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Et nous allons pouvoir permettre donc aux parlementaires d'exercer ces trois missions de façon beaucoup plus complète.
On peut prendre deux exemples. Si vous dites aujourd'hui il faut réformer pour pouvoir aller plus loin dans tous ces domaines-là, ça veut dire que avant quoi ? La Constitution était un frein, si on prend la question climatique, par exemple.
Alors, la Constitution peut être un frein, parfois. On l'a vu dans le passé concernant, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil constitutionnel avait jugé que, faute d'inscription dans la Constitution de possibilité de déroger au principe d'égalité, on ne pouvait pas avoir d'action résolument qui favoriserait l'accession aux femmes de la vie politique.
Des quotas,
donc,
par exemple.
Alors, parfois, voilà, la Constitution est un frein. Là, il s'agit vraiment de montrer que dans les principes fondateurs de notre République, donc qui sont inscrits à l'article 1 de la Constitution, figurent les enjeux climatiques et de respect de la biodiversité. Et ça, c'est un acte très fort, pas que symbolique, parce que rien n'est symbolique dans notre Constitution. C'est un acte fort, volontariste, pour indiquer que ce sont des enjeux extrêmement majeurs aujourd'hui, et ça ne l'était pas il y a 20 ans, 30 ans. La meilleure preuve est que le changement climatique n'était pas inscrit dans la Charte de l'environnement qui a été votée il y a seulement quelques années. Donc oui, il faut adapter notre Constitution. Le droit est vivant. Il n'est pas figé et il ne faut pas qu'il soit figé. Donc il faut que nous soyons réactifs pour avoir des institutions qui correspondent à l'ère du temps.
Mais la Constitution reste un cadre et qui n'est pas un cadre mort pour autant. Donc on peut l'adapter, vous l'expliquez, mais il faut en préserver les principes fondamentaux. Si on change la Constitution comme on change les lois, ça devient quand même problématique. Vous étiez avocate, vous avez une formation de juriste. Quelles sont pour vous aujourd'hui les conditions nécessaires pour une réforme de la Constitution ?
Alors vous avez raison sur le fait de dire que c'est un cadre et qu'il doit être solide. Et on voit bien que ce cadre institutionnel que nous avons permet des adaptations, des changements de majorité politique. Et donc cette souplesse est nécessaire, cette souplesse et cette rigidité également, elle est protectrice. Donc il faut la modifier quand vraiment cela s'avère nécessaire, utile, et quand nous pensons profondément que cela va apporter un plus. Et c'est ce que nous croyons aujourd'hui. Donc la réforme que nous proposons et que nous allons examiner à partir de cet après-midi dans l'hémicycle est une réforme nécessaire.
Alors justement, revenons-en à cette réforme des institutions. Vous êtes, vous, Yaël Braun-Privé, co-rapporteur de ce projet de loi constitutionnel et portant réforme des institutions. On va écouter ce qu'en disait Emmanuel Macron hier devant le Congrès réunis à Versailles.
Au cœur de cette réforme institutionnelle se trouve la volonté d'une liberté plus grande. Liberté des collectivités territoriales, appelées à mieux exploiter leurs atouts, leurs spécificités, en permettant une véritable différenciation. Liberté des citoyens, grâce à une justice indépendante. Liberté du Parlement, que je veux plus représentatif des Français, renouvelé, doté de droits supplémentaires, animé par des débats plus efficace. C'est donc une réforme de confiance, de renforcement de la représentation nationale. Le Parlement ainsi rénové aura le pouvoir de mener avec le gouvernement des échanges plus constructifs, car l'esprit de dialogue et d'écoute nous est essentiel. Et c'est d'ailleurs cet esprit qui a présidé à tous vos débats et à tous vos travaux dans l'année qui vient de s'achever.
Alors moi, Yaël Brand-Pivet, quand j'entends ça, je suis un peu quand même étonnée par cet exercice de verticalité qui consiste à dire voilà ce qu'on va faire, sans débat, on l'a déjà expliqué, ça changera peut-être pour l'année prochaine puisque maintenant c'est un souhait d'Emmanuel Macron de pouvoir débattre avec les parlementaires lors de cette réunion en Congrès. Verticalité donc pour nous expliquer qu'il faut plus de débats ou des débats plus efficaces au sein des assemblées, du Parlement en général, de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut redonner de la voix à la majorité ou on veut imprimer par le haut sa marque ? Que veut le président ?
Alors, le projet constitutionnel nous est présenté par le président de la République. Donc, bien évidemment, le cap est fixé, le périmètre de la réforme constitutionnelle est ainsi défini. Mais le temps du débat a déjà commencé au Parlement avec l'examen de ce texte en commission et il se poursuivra devant l'Assemblée nationale à partir de cet après-midi et dans les semaines et mois à venir au Sénat, puis à nouveau devant notre Chambre. Donc le temps du débat parlementaire est venu, mais il n'est pas abstrait, il n'est pas en l'air et il se fonde sur un texte qui nous est présenté par le président de la République. Donc bien évidemment, le cadre est fixé, ça ne veut pas dire que ce soit descendant, ça ne veut pas dire que le temps du débat ne viendra pas. Il est devant nous, mais il est normal qu'il existe un cadre dans lequel nous allons débattre.
Alors, comme parlementaire, quels sont les droits supplémentaires que vous souhaiteriez obtenir à travers cette réforme ?
Alors, ce qui nous intéresse en tant que parlementaire, c'est de mieux organiser notre travail. Aujourd'hui, la partie législative de notre travail, qui ne consiste qu'un tiers de nos missions, puisque nous avons ces missions de contrôle et d'évaluation, cette partie législative est parfois beaucoup trop redondante. Parfois, elle manque de visibilité. Parfois, nous voyons que certains textes ne mériteraient pas un examen dans l'hémicycle, pas parce qu'ils ne sont pas importants ou intéressants, mais simplement parce que parfois ils sont tellement techniques qu'ils ne concernent pas les 577 députés qui forment notre Assemblée. Et ces textes, demain, grâce à la réforme, pourront être examinés uniquement en commission. Et ça, c'est une réforme de taille parce que ces textes seront examinés et votés en commission, mais cela permet de dégager du temps soit pour passer plus de temps en hémicycle sur d'autres textes qui, eux, ont un enjeu politique important, soit pour à nouveau se dédier à nos autres fonctions.
Il y a un problème de temps, mais il y a aussi un problème de surproduction, peut-être. On a souvent pointé, et ça, c'est pas nouveau avec votre mandature législature, on pointe souvent l'inflation législative en France. C'est pas prêt de s'arrêter avec le gouvernement Édouard Philippe. Il y a un problème aussi dans la fabrique des lois pour vous aujourd'hui.
Alors, il y a effectivement beaucoup de textes et parfois on dénonce et on l'entend cette inflation législative qui amène de la complexité, une complexité parfois contre-productive. Mais c'est la raison pour laquelle, encore une fois, si nous pouvons, nous, parlementaires, déployer notre action sur tous les nos champs de compétences, nous pourrons faire ce que l'on appelle l'évaluation des politiques publiques et l'évaluation des lois. Et lorsque nous avons le temps de procéder à cela, nous pouvons justement mieux apprécier si effectivement sur tel et tel domaine il faut légiférer, si la loi précédente a bien produit tous ses effets, si elle n'est pas à réévaluer avant même de légiférer à nouveau. Donc c'est aussi, vous voyez, ce temps qu'il nous faut avoir que peut-être aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment mettre à profit de cela parce que trop de temps dans l'hémicycle qui, malheureusement, nous empêche de déployer ces autres actions.
Ça veut dire un gouvernement qui, à l'avenir, gouvernera peut-être moins par ordonnance et laissera plus de place à sa majorité, à l'Assemblée, au Sénat.
Alors moi, je n'ai pas l'impression, faisant partie de la majorité, de ne pas avoir de place.
Vous ne vous sentez pas lésée pour
l'instant ? Je ne me sens pas lésée à la position qui est la mienne. Vous savez que je suis également présidente de la commission des lois et chaque texte qui est passé, qui a été étudié par ma commission, a été amendé, modifié, enrichi et nous avons effectué notre travail, mais le travail normal de tout législateur, avoir un regard critique sur le texte qui nous sont présentés. Et donc, nous n'avons pas d'insatisfaction à cet égard.
Des débats plus efficaces, un Parlement animé de débats plus efficaces. Ça veut dire que la voix de l'opposition va se faire encore moins entendre, encore plus sourde qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui?
Alors, pas du tout. Il ne s'agit absolument pas d'entendre moins l'opposition, mais peut-être de nous entendre tous mieux. Aujourd'hui, selon la procédure législative qui est suivie, parfois un même texte est examiné 13 fois. 13 fois par nos assemblées, que ce soit en commission ou en séance plénière. Et je ne crois pas que parce que nous examinerons le même point 13 fois, les positions des uns et des autres évolueront. Et si nous raccourcissons ces temps d'examen et ces navettes et ces redondances, je ne crois pas, je n'ose pas croire que l'opposition pourrait se sentir muselée.
Il y a un président du Sénat qui n'est pas content du tout pour l'instant. On va écouter Gérard Larcher.
Avant l'examen par l'Assemblée nationale, le texte n'est pas acceptable parce que il abaisse les droits du Parlement. Et c'est la première fois depuis 1958 qu'on abaisserait les droits du Parlement. Par exemple, la restriction du droit d'amendement. Et pas en nombre, mais un certain nombre d'amendements se verraient interdits. Un peu technique, le lien indirect. Et c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur aussi que d'abaisser le bicamérisme. C'est-à-dire de dire, en cas de désaccord, on prend plus le texte du Sénat. Et on ne prendrait que le texte de l'Assemblée nationale, on serait bien ennuyé.
Voilà, Gérard Larcher, bien ennuyé qu'on trouble aussi la philosophie et l'esprit de la Constitution de 58 portée par le général de Gaulle. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Il n'y aura pas de réduction du bicamérisme. Les deux chambres vont continuer à maintenir leur poids et à pouvoir jouer leur rôle.
Alors moi, je le crois profondément. Le bicamérisme est extrêmement intéressant et fructueux et il permet d'enrichir les textes. À la Commission des lois, nous avons sur des textes donc qui ont été examinés par le Sénat et l'Assemblée nationale et eu ce qu'on appelle des commissions mixtes paritaires, donc ces moments où justement nous mettons nos positions en commun pour voir si nous sommes capables d'aboutir à un texte commun entre nos deux chambres. Sur 14 commissions mixtes paritaires, nous en avons réussi 10. Donc cela montre que nos deux chambres sont en capacité d'échanger, de discuter et d'aboutir à des textes communs. Et cela, à chaque fois, a permis d'enrichir les textes issus de nos deux chambres. Donc je pense que le bicaméralisme est quelque chose d'extrêmement fructueux et positif. Concernant le droit d'amendement dont parlait le président du Sénat, finalement, le texte ne propose de reprendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit d'amendement. Donc il ne s'agit que prendre cette jurisprudence et de faire en sorte que nous puissions l'appliquer directement devant l'Assemblée nationale pour rendre irrecevables des amendements que de toute façon le juge constitutionnel serait en mesure de déclarer irrecevables également. Donc nous ne faisons que prendre corps d'une réforme, d'une jurisprudence constitutionnelle qui existe déjà. Nous avons beaucoup d'amendements. Regardez, pour aujourd'hui, le texte constitutionnel aura 2400 amendements qui ont été déposés, donc qui vont être examinés. Et je ne crois pas simplement appliquer cette jurisprudence du Conseil constitutionnel va à nouveau vraiment réduire de façon conséquente le nombre d'amendements qui sont déposés dans nos chambres.
Yael Braun-Pivet, avec l'élection d'Emmanuel Macron, avec le renouvellement aussi de l'Assemblée nationale, on nous avait promis un vrai changement. Des députés issus majoritairement de la société civile qui allaient porter aussi la voix de tous et non pas des députés, des politiques professionnels. Est-ce que ce changement, vous le percevez au sein de l'hémicycle? Parce que pour être un peu tous francs, on a du mal à le percevoir à l'extérieur. Quelle est vraiment la particularité, la dissonance de vos voix?
Alors, je ne sais pas si c'est la dissonance de notre voix qu'il faut pointer. C'est surtout, je pense, la dissonance de nos pratiques. Nous, membres de la société civile, moi, il y a un an, je n'avais jamais fait de politique. Je pense que nous avons un regard neuf sur notre institution que nous allons et nous souhaitons transformer profondément. Donc cette réforme de la Constitution est l'étape 2 de cette transformation. L'étape 1 était les lois confiance que nous avions votées l'été ces derniers, mais nous aurons ensuite une réforme profonde de notre règlement intérieur pour mieux organiser notre travail. Donc c'est cela la société civile, c'est cela également le fait peut-être d'avoir de nouvelles pratiques avec de dialogue citoyen. Moi j'organise des réunions publiques quasiment tous les deux mois sur le terrain pour échanger, pour rendre compte de mon action. Voilà, un nouveau regard, une nouvelle façon de faire. Après, il va falloir aussi que nous peut-être montrions encore plus, parce que si vous ne le percevez pas, peut-être que les citoyens le perçoivent mal. Mais en tout cas, moi, sur le terrain, les remontées que j'ai de la part des citoyens, c'est une grande satisfaction d'avoir osé ce pari et ils estiment l'avoir réussi.
Vous avez rappelé tout à l'heure les trois missions du Parlement, voter la loi, évaluer les politiques publiques, mais aussi contrôler le gouvernement. Hier, Emmanuel Macron au Congrès a donc donné le cap de cette réforme institutionnelle. Est-ce qu'il n'est pas en train de se créer un écrin parfait pour pouvoir agir les mains libres en surpassant aussi le droit des parlementaires et des députés ?
Je comprends pas votre question, excusez-moi.
Est-ce que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec la réforme institutionnelle, c'est pas un peu moins de pouvoir, un peu moins de temps aussi encore pour la discussion, pour les députés, et donc un peu moins de possibilités de contrôler l'action du gouvernement, ce qui fait partie de vos missions comme député?
Mais non, pas du tout en fait, puisque le fait de passer moins de temps à légiférer, justement, va nous permettre d'avoir plus de temps pour réaliser des missions d'information qui nous permettent de contrôler l'action du gouvernement, mais pas seulement, d'aller plus sur le terrain, d'aller plus visiter des établissements hospitaliers ou des établissements pénitentiaires pour vérifier les conditions dans lesquelles s'exerce telle ou telle mission du gouvernement. Donc non, bien au contraire, le contrôle de l'action du gouvernement, encore une fois, ne passe pas par la législation, et plus on aura de temps pour se faire et plus de moyens pour se faire, parce que je vous rappelle également que cette réforme va prévoir de muscler les capacités de contrôle de l'Assemblée nationale en termes de moyens d'évaluation et de moyens qui seront mis à notre disposition. Donc non, bien au contraire.